franceinter.com. La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
L'accident de Fukushima, mais aussi en France, le mouvement de fond qui se lève contre l'éventuelle extraction de gaz de schiste, font remonter à la mémoire les mobilisations antinucléaires des années 1970 qui eurent leur importance, dans l'élection de François Mitterrand en mai 1981, mobilisation autour de quelques lieux, Fessenheim dans le Bugey, Crémalville en Isère, et en 1978-1981, dans le Finistère, à l'extrême ouest de la France, juste avant la baie des Trépassés, Plogoff qui refusa cette installation.
Pour un bon 100 mètres, on se foulait. En avant.
Mazouté hier, on se souvenait en Bretagne du naufrage du Torrey Canyon après celui du Bolène, radioactif, non. Aujourd'hui, un témoin, pas un historien de Plogoff. Il y a beaucoup de livres qui sont parus sur Plogoff, tout récemment. Une excellente thèse de Gilles Simon. Non, notre invité Jean-Charles Perazzi était juste un des journalistes qui suivait les événements pour Ouest France. Bonjour Jean-Charles Perazzi.
Bonjour Jean Lebrun.
Vous étiez toute une équipe d'ailleurs.
Exact. Nous étions une équipe qui travaillait à la fois sur le terrain et en retrait à Quimper pour suivre un certain nombre d'événements liés à celui de Plogoff et plus précisément de l'enquête du télépublic sur place. Je veux dire les procès et puis toutes les manifs à Quimper, etc.
Alors on va commencer dans l'ordre. Avant les manifs, avant l'enquête d'utilité publique, les semaines violentes de Plogoff en 1980, avant les procès et la victoire finale, d'abord... Qu'est-ce qui motivait le gouvernement dans ses projets d'installation de centrales nucléaires en Bretagne? Eh bien, l'intérêt général, disait le président Giscard d'Estaing, qui d'ailleurs ne faisait que suivre la politique des derniers temps de Georges Pompidou et de Pierre Messmer.
Exact, oui, je me rappelle. On se rappelle.
Et donc, indépendance énergétique nécessaire face à la crise pétrolière et chacun doit prendre sa part. Valéry Giscard d'Estaing, en Bretagne, à Vannes, dans le Morbihan, en février 1977.
La construction de ces centrales servira en outre à alimenter le développement économique des régions concernées. Le gouvernement veillera à ce que ces centrales soient construites en tenant compte des études scientifiques qui établissent le meilleur type d'installation en s'entourant du maximum de garanties grâce notamment aux études d'impact désormais rendues obligatoires par la loi sur la protection de la nature.
Alors le journaliste de Ouest France qui allait suivre les réunions scientifiques qui étaient organisées, qui suivait aussi les débats du Conseil régional et du Conseil général du Finistère, qui était le plus concerné. Il n'était pas particulièrement compétent, il était comme vous et moi, il était prêt peut-être à entendre le langage des autorités.
Vous voulez dire ?
C'est-à-dire que les réunions étaient organisées autour d'autorités, de professeurs,
bien sûr.
De spécialistes, vous voulez parler de l'irradiation.
Bien sûr, vous voulez parler de réunions publiques. Ok. De réunions publiques à destination des gens de Plogoff, et d'ailleurs, puisque sur les autres sites, c'était pareil, les visites aussi de sites nucléaires ou de centrales en fonction. Donc, étaient destinées au public et animées par des scientifiques. Et il faut tout de suite préciser que certaines d'entre elles étaient animées par des scientifiques, des spécialistes de l'atome, etc. J'insiste bien, des spécialistes de l'homme, qui étaient pro-nucléaires, d'autres qui ne l'étaient pas, et qui étaient anti-nucléaires, qui étaient aussi compétents que ceux qui étaient pro-nucléaires, n'est-ce pas? Et qui n'étaient pas pour le nucléaire, mais qui avaient des arguments qui valaient ceux des scientifiques d'en face.
Oui, le journaliste, il sentait ça. Il était déjà dans une sorte de balance.
Quand
dans
on n'est pas. Jean Lebrun, quand on n'est pas journaliste scientifique, je crois savoir que c'est votre cas, puisque vous êtes historien, eh bien, on va écouter les gens qui savent. Et on essaye d'en tirer la substantifique moelle et puis de dire ça à nos lecteurs ou à nos auditeurs.
Alors, les réunions étaient d'autant plus nombreuses qu'il y avait, à l'époque, 5 projets de sites en Bretagne. C'était d'une centrale baladeuse qu'il s'agissait, en fait.
Exact, oui. On a mis beaucoup de temps avant le choix. Il y a eu des années à passer avant le choix définitif de Plogoff. Ok. Et si vous voulez des noms, il y a eu Blouézec près de Paimpol, il y a eu Erdeven dans le Morbihan, il y a eu Guimaec dans le Finistère, il y a eu Ploumoguer également dans le Finistère, et encore 2 ou 3 autres sites, le Carnet dans la Loire Atlantique qui est en Bretagne, comme vous savez, etc. Et d'autres encore.
Ploumoguer, alors c'est dans le Léon, ce sont les terres riches, et les élus de l'endroit, ils ont su repousser par cet argument l'idée d'une fixation du nucléaire chez eux.
Eh ben oui, voilà. Les élus étant ce qu'ils sont, je serais presque tenté de dire de quelque bord que ce soit, veulent bien du nucléaire, c'est comme les simples citoyens d'ailleurs, chez les autres, mais pas chez eux. À Ploumoguer, au fin fond du Léon, vous situez bien géographiquement, c'est dans le nord Finistère, du côté de la pointe Saint-Mathieu. Pardon, les Léonards qui produisaient ou surproduisaient l'artichaut, et tout le reste, ne voulaient pas d'une centrale nucléaire pour polluer leurs terres ou les déranger et tout. Et donc, étaient favorables à une centrale ailleurs. Plogoff, par exemple, et ça a été très concret à une réunion à Saint-Brieuc où la décision a été prise, mais pas du tout chez eux.
Voilà. Alors, la décision est prise au Conseil général du Finistère, fin novembre 1978. Délire, du côté du Cap Sizun, la bonne commune de Plogoff. Le Figaro, d'ailleurs, va écrire, si les gens de Plogoff ne sont pas contents, c'est que la pointe du Raz est le nez de la Bretagne et que la pointe du Raz ne voit pas plus loin
que le bout de son nez.
Le bout de son nez. Les gens de Plogoff, en effet, ne sont pas d'accord.
Plogoff, c'est une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Nous sommes informés qu'une centrale nucléaire est prévue sur nos terres d'ici quelques années. Monsieur le Président, ignoblement nous sommes c'est pas pour vous fâcher, mais il faut qu'on vous dise, notre décision est prise, on va la refuser.
Dans un premier temps, les manifestations, Jean-Charles Perrazzi, contre le projet de Plogoff, se font sous forme de marches, de rassemblements, ça n'est pas sans ressembler au pardon, avec une forte participation d'artistes d'ailleurs. Ici, c'est un chanteur de Plogoff qu'on entend, mais on a vu venir toutes les vedettes de la nouvelle chanson bretonne.
Oui, vedettes, artistes, clowns comme Cargris, et puis tout le monde. Et les vedettes sont arrivées à la demande des gens de Plogoff ou des clins, il faut dire ce que c'est.
Les clins sont les comités de liaison.
Les comités de liaison d'information nucléaire, regroupés en crins, commissions, tout ça était bien structuré, qui invitaient des artistes qui sont venus, en effet, sur les scènes, dire, apporter une sorte de soutien musical et chantant aux manifestants.
Alors, vous avez toujours, vous, suivi de très près la nouvelle chanson bretonne. Alors, vous vous souvenez de tel ou tel qui ont participé ?
Alors là, en artiste, on va dire Gilles Serva, Yon Guernic. C'est difficile, vous savez, à 30 ans de distance de souvenir, même si tous ces gens-là ont... Yon Guernic, les musiciens aussi, joueurs de bombarde et de biniou, faisant partie des groupes qui animent les festons. Mais c'était je dirais des régiments, c'était énormément d'artistes, chants, guitare, musique, toutes sortes de musiques confondées qui venaient pour
soutenir. L'important, c'est de trouver des formes sans cesse renouvelées. Alors, c'est pour ça que le clown atomique Jean Kergrist venait promener son spectacle où il racontait comment nécessairement une société nucléarisée, ça devenait une société de sûreté et d'autorité. Ça se faisait avec très peu de moyens, d'ailleurs. Il avait une poussette, j'imagine.
Oui, il a beau être directeur du TNP, que vous connaissez bien, n'est-ce pas ? C'est le Théâtre National Portatif. c'était une poussette de bébé et puis un déguisement de clown. Et puis voilà, il faisait rire les foules qui à la messe de 5 heures, puisque tous les jours, il y avait un rassemblement d'opposants au moment du départ. Mais il faudra peut-être expliquer ça, je ne sais pas.
Oui, mais on va y venir, parce que ça, c'est semaines violentes que vous parlez. Bon. Déjà, mais autant des marches et des rassemblements, une autre forme qu'on avait inventée, c'est l'installation d'un berger.
C'est exact, oui. Qui est arrivé d'ailleurs... assez tôt sur le site. Une bergerie a été construite sur les hauteurs du site de Fontenode, qui est à quelques kilomètres de la pointe du Raz, bien d'accord, on est sur la côte sud de pointe du Finistère, et sur cette colline qui surplombait le site, c'est-à-dire cette falaise qui allait être découpée comme un gigantesque gâteau pour y loger la centrale, en bord de mer. Eh bien, des volontaires se sont réunis, se sont rassemblés venant de partout et ont construit cette bergerie pour y mettre, bien évidemment, des moutons. On voit le symbole tout de suite, les moutons contre l'atome.
Mais c'est la même époque qui est celle du rassemblement permanent contre l'agrandissement du camp militaire du Larzac, et tout ça fait écho. Cependant, les gens de Plogoff sont très sensibles à l'arrivée des nouveaux venus, mais ils veulent que le combat soit d'abord le leur.
C'est vrai, absolument. Oui. Vous avez raison de dire qu'il y a eu tout de suite une alliance de fait avec la bande à Beauvais dans le Larzac, et puis Jean-Marie Kerlor et la bande à Kerlor, le maire de Plogoff. Mais, je viens d'en parler, Jean-Marie Kerlor était donc le chef des irréductibles plogophytes, comme on les a appelés. Hein, on pense à Astérisque et Obélisque, petite population de 2000 habitants qui va se battre complètement déchaînée contre les forces de l'ordre et autres. Donc, Jean-Marie Kerlor a tout de suite prévenu les manifestants qui venaient apporter leur soutien de tous les coins de France, avec un accent rocailleux qui était le sien, a tout de suite prévenu ce combat, il est le nôtre, il est celui des gens de Plogoff. Il n'est pas le combat des gens qui viennent de Neuilly en cravate ou bien des Blaouhir. Je traduis Blaouhir parce que peut-être vous ne connaissez pas le breton. Ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire les Blaouhir, les cheveux longs. Oui. C'est-à-dire qu'il exigeait, lui et sa petite troupe locale, d'être complètement maître de la situation, de la bagarre et du combat qu'il menait.
Alors, un des héros du combat, en effet, c'est le maire, ce petit bonhomme qui est un ancien de la Royale. Il y a beaucoup de retraités de la maire à Plogoff. Et ce combat va devenir d'autant plus violent que la préfecture lance l'enquête d'utilité publique. Alors, il s'agit pour la préfecture de faire se diriger des camionnettes qui sont autant de mairies annexes dans toutes les directions sur le territoire. Ça fait quelle taille, la commune de Plogoff ?
Je saurais trop le dire, mais c'est...
6-10 kilomètres de long ?
En gros, peut-être, ouais. Et peut-être autant de large, mais honnêtement, je n'ai pas le chiffre dans la tête. Et il faut les mairies, vous venez de parler des mairies annexes, c'est-à-dire de deux caravanes, parce que le maire a brûlé, les documents de l'enquête publique qui devaient être déposés en mairie, où pendant plusieurs semaines, les gens devaient normalement donner un avis sur le projet, ok ? Alors, du coup, l'État, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait que l'enquête ait lieu. Elle a installé deux caravanes où se a logé l'enquêteur de
un amiral.
Un amiral, c'est vrai, oui. Qui était chargé de cette enquête. Et puis, voilà.
Et on a aussi installé des forces de l'ordre, des CRS, des gardes mobiles.
Pour protéger les gardes mobiles protégeaient les mairies mobiles.
Voilà. Okay. Et les gardes mobiles étaient stationnés sédentairement dans l'ancien petit séminaire de Pont-Croix qui avait été réquisitionné aux grandes dames de l'évêque, d'où le surnom donné aux forces de l'ordre de séminaristes par le maire.
Cette nuit, il s'est passé beaucoup de choses et les gens, ce qui n'était pas présent, ne peuvent pas s'imaginer ce qui s'est passé. Je suis à 3h ce matin, on m'a réveillé pour me dire que les lampes s'allument dans les dortoirs du petit séminaire où sont les séminaristes. Il est évident qu'il faut remercier tous les gens qui ont été sur le pont du Loge parce qu'ils ont fait un travail formidable. Et je pense quand même la persévérance, le courage aura le dessus. Et je dis, on les aura. Ça, il faut les dire.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Voilà, et depuis les barricades, les plogofistes lancent des pierres. Ce film dont on entend un extrait, c'est « Des pierres contre des fusils » par Nicole et Félix Le Garec. Parfois même, ils lancent des cocktails Molotov. Enfin, c'est difficile de contenir d'ailleurs la violence dans le village.
Bien sûr. Je voudrais revenir un instant en arrière. La voix qu'on vient d'entendre est justement celle de Jean-Marie Kerlor, l'un des héros de cette bagarre. Pardonnez-moi, je vous ai interrompu ou j'ai perdu votre question.
Alors, il essaie, lui, oui. Le héros, de maintenir le calme relatif aussi.
C'est ce que je disais un peu tout à l'heure. Pas le calme, enfin, d'être maître de la situation. Et il avait des rencontres avec le chef, les responsables des forces de l'ordre, qui venaient le voir en disant « calmez vos troupes ». Et Jean-Marie Kerlor leur avait bon jeu de leur dire « vous calmez les vôtres aussi ». Voilà, et pour match nul, on en restait...
Les habitants de Plogoff avaient l'impression d'être occupés militairement. On parlait d'électrofascisme parce qu'il y avait la mère poule, l'hélicoptère, qui surveillait les poussins, oui. Les séminaristes, les CRS et les gardes mobiles au sol.
Et venait aussi pour orienter les forces de l'ordre, la mère poule, cet hélicoptère qui venait tous les jours au moment de la messe et au moment du départ des gens mobiles, des deux caravanes mobiles pour l'enquête, du départ vers le petit séminaire de Pont-Croix. Les deux, il y avait une surveillance parce que c'était le temps fort, une surveillance, et puis un temps extrêmement fort à 5 heures, parce que là, c'est là que la bagarre commençait, bien évidemment, tous les jours de la semaine.
Donc, il faut bien entendre, la messe, ce n'est pas une cérémonie religieuse, mais c'est une bagarre ritualisée.
En quelque sorte, oui, on dira ça comme ça. Oui, c'est la messe, puis il y avait un rendez-vous à heure fixe, quoi, hein, comme pour l'office dominical ou autre chose, oui.
On parlait à propos des marches silencieuses du début de pardon antinucléaire, et nous voici maintenant avec des messes devenues plus violentes que les offices religieux. D'autant que parfois les habitants de Plogoff imaginaient d'aller se porter en face des forces mobiles au petit séminaire de Pont-Croix où elles logeaient. Et là, le maire mettait la pédale douce.
Il y a des gens de Plogoff, écoutez-moi, là, un petit peu. Bon, les gens qui veulent y aller à Pont-Croix, je crois qu'il serait nécessaire que ce soit des gens pacifiques qui y aillent.
Les hommes, je sais que vous êtes énervés, mais ils sont prêts à tout.
Oui, oui.
J'ai vu aujourd'hui donner des coups de pied à des femmes, oui. Donner des coups de matraque. Alors, concentrez-vous sur Plogoff. N'ayez pas peur de démolir les issues qui mènent à Plogoff. Que nous soyons une île qui ne puisse pas venir chez nous. Oui. Mais... Ouais. Vous ferez du tort aux gars, aux copains qui ont été ramassés ce soir. Mais je vous dis, faites travailler vos esprits et que Plogoff devienne une île et qu'on ne les voit plus sur notre terrain.
Les gars ramassés ce soir, eh bien, c'était des manifestants qui étaient interpellés et qui allaient être jugés, on en parlera tout à l'heure, au tribunal de Quimper. Là, c'est une voix féminine importante dans le combat.
C'est Amélie Kerlor qui, quand Jean-Marie Kerlor, un peu secoué et beaucoup, même par la bagarre, au beau milieu, devrait être hospitalisé pour une affaire cardiaque. Et c'est Amélie qui prendra le relais. Amélie Kerlor. Qui a le même nom, mais qui n'avait aucun lien de parenté avec lui.
Okay. Les femmes ont beaucoup frappé par leur détermination. Les journalistes, ceux d'Ouest France et du Télégramme de Brest, sont concurrents, mais aussi ceux des médias nationaux qui accourent de plus en plus nombreux à mesure qu'avance la semaine.
C'est vrai. Les femmes ont beaucoup frappé, au sens figuré du terme. Mais aussi, ça allait plus loin, parce qu'on assiste à des scènes homériques. il faut dire, il faut se souvenir que à cette époque-là, à Plogoff, comme peut-être aujourd'hui encore, petite commune de 2000 habitants, les hommes sont pas là. Ils sont à la marine nationale, ils sont marine d'État, ils sont marine de commerce, ou ils sont à la pêche. Donc, ce sont les femmes, moyenne d'âge 50-60 ans, qui affrontent tous les jours pendant la messe ou pendant les jours, la journée entière. Si les forces de l'ordre sont par là, qui vont à la bagarre, on dira, ok. Et ces femmes-là étaient d'une violence qui parfois nous étonnait, quoi. Écoutez, je peux vous donner deux exemples. Moi, je vois une grand-mère un jour qui devait approcher les 80 ou 90, qui devait dépasser les 80 ans. Elle tendait discrètement, elle avait un tablier rempli de cailloux qu'elle tendait aux jeunes combattants qui castagnaient. Je vois une femme un jour, un peu opulente et tout, qui se retourne et monte ses fesses à des jardins mobiles. Dernier exemple, ça c'est le plus fort peut-être. Une femme un jour se met tout d'un coup à apostropher des gendarmes mobiles. Et un jeune notamment qui était là. Ta mère sait que tu es là, elle sait ce que tu fais, elle sait que tu tabasses des femmes, des enfants et tout. Et qu'est-ce qu'on voit, les collègues et moi, ou les représentants des autres médias? Le CRS tout d'un coup qui pâlit, puis hop, il tombe en syncope, soutenu comme par deux de ses collègues.
Force de la parole et libération de la parole, c'est souvent ainsi. Par exemple, dans le livre de Gilles Simon qui vient de paraître aux presses universitaires de Rennes sur Plogoff, qui est présenté la mobilisation de Plogoff, la libération, mais ça ne se fait pas tout seul, dit Gilles Simon. Alors à propos de libération, on a laissé arrêter les militants qui s'étaient livrés à des voies de fait contre les CRS, parmi eux d'ailleurs, le premier, je crois, qui a écopé de 45 jours de prison ferme, c'est un ancien gardien de la pénitentiaire, parce qu'il n'y avait pas que des retraités de la Royale et de la Marine à Plogoff, il y avait aussi Clétansker.
Clétansker, oui. Ouais. Bah oui, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et c'était un gardien de prison, bah, il s'est retrouvé en prison. Et il a été d'ailleurs très formé content de l'aventure parce que la gendarmerie ou les forces de l'ordre l'avaient attaché avec une menotte à un radiateur. Il nous a raconté ça par le menu après. Et puis il avait les bras sérieusement atteints et tout, quoi.
L'ampleur de la lutte est quand même si importante que le pouvoir judiciaire prend des précautions et que dans un dernier procès à Quimper, nous sommes maintenant au palais de justice, l'autre épicentre du combat de Plogoff, le 17 mai 1900. 80, un jugement de décompression est prononcé. Voilà, les emprisonnés, donc les Clétansker, sont libérés.
On a toujours non nucléaire et on aura des CRS. On va les écouter. On va les tuer.
Ça se voit.
Il y a juste mon nez qui est encore un peu de travers, mais ça fait rien. Oh, peut-être on reviendra encore. Hein. Il ne faut jamais dire victoire.
Là, les journalistes, ils ont basculé du côté des manifestants, à peu près tous. Vous devenez même des conseillers en mobilisation.
Là, vous me poussez dans mes derniers retranchements. Vous avez noté au passage que il y avait de l'humour dans leur façon de faire aussi. Hein. Et c'est terrible dans les bagarres comme ça, l'humour. C'est redoutable comme arme, quoi. Alors, on a basculé dans... Alors, on me pose souvent la question quand j'interviens devant divers publics. Vous êtes pour ou pro le nucléaire? Je ne suis pas scientifique, qu'est-ce que vous voulez que je réponde? Mais quand pendant, non seulement un mois, mais un ou deux ans qui précèdent et un ou deux ans qui succèdent jusqu'à la victoire finale, entre guillemets, eh bien, vous recueillez un tel tissu de mensonges, de déclarations aussi dingues de la part de gens de l'EDF, du commissariat de l'énergie atomique, d'administration importante, des déclarations qui sont contradictoires, qui sont des mensonges avérés. Et puis, vous êtes bien obligé de vous laisser aller, de choisir un camp. Allons-y, n'ayons pas peur des mots. Vous choisissez un camp, inévitablement, quoi. Et alors, votre question, c'était aussi, Jean Lebrun, et vous êtes devenu des conseillers. Bon, une fois de temps en temps, on a dit à Jean-Marie, parle pas de la centrale de Fontenotte, parle de la centrale de Pointe-du-Rard. Ok, vous voyez tout de suite, aujourd'hui, il y a eu des naissances à la bergerie.
Et tout à l'heure, à 5h à la messe, il va y avoir de la castagne, parce qu'ils sont très remontés dans les dehors. Il y a eu des naissances. Fait amener les agneaux en premier rang. On n'était pas objectif, faut reconnaître.
Mais du côté de François Mitterrand, qui se présente à l'époque à l'élection présidentielle, on savait aussi manier les moyens de communication modernes. Au moment du dernier face-à-face entre les deux tours, le 5 mai 1981, la question de l'arrêt de Plogoff est évidemment posée.
Il est possible de diversifier davantage les ressources énergétiques. Je pense qu'il est possible de réveiller plus que vous ne le faites le charbon, notamment avec les techniques modernes de la carbochimie. Je pense que l'on peut, plus que vous ne le faites, contribuer au développement des énergies renouvelables, non polluantes. Je pense que l'on peut faire plus que vous ne le faites des économies d'énergie, ce qui peut me permettre, je le pense très sérieusement, d'aboutir au même million de tonnes équivalent pétrole, sans précipiter notre marche en avant vers le tout nucléaire.
Donc 30 ans avant le pré-programme présidentiel de Martine Aubry, le Parti Socialiste prônait déjà la diversification.
Bien sûr. D'ailleurs, les Bretons, qui ne sont pas plus stupides que les autres, au début des événements de Plogoff, avaient proposé un plan alter-breton. C'est-à-dire qu'en utilisant les économies d'énergie que vient de préconiser François Mitterrand, et à partir d'économies d'énergie et ajoutant à cela les énergies renouvelables, enfin, c'est très à la mode aujourd'hui, n'est-ce pas? On a eu un Grenelle, je crois, ou un truc comme ça. Eh bien, on mis bout à bout le vent, l'eau, le photovoltaïque. Il était plus ou moins démontré à l'époque déjà, et des scientifiques qui travaillaient, des facultés de Brest, de Rennes et d'au-delà, il était démontré qu'on pouvait, avec les énergies de substitution, on disait les énergies alternatives à l'époque, on pouvait aller tout doucement vers une autre façon de produire de l'énergie
enfin,
dans le pays.
On vous dit encore en Bretagne, maintenant, oui. Si nous sommes menacés
on a perdu 30 ans,
de rupture d'électricité souvent l'hiver, c'est que nous n'avons nulle indépendance énergétique, nulle usine de production électrique suffisante. Il y a quand même eu 535 voix pour Valéry Giscard d'Estaing à Plogoff en mai 81, 1200 voix, vous me direz, pour François Mitterrand.
Oui, c'est exact. Oui. Même à Plogoff, les gens dans les Plogoffites n'étaient pas anti-nucléaires à 100%. C'est évident. Mais le nucléaire était contesté par les anti-nucléaires, scientifiques ou non, était toujours défendu par les pro-nucléaires. Et comme il n'y avait pas de vrai débat démocratique dans le pays pour faire une sorte de choix, et puis que ce choix était celui de M. Mesmer ou de M. Mitterrand, même de Gaulle avant. Parce que s'il y a eu le nucléaire civil, vous connaissez mieux que moi l'histoire, c'est parce qu'il fallait développer le nucléaire militaire. Les deux sont nécessaires, ok, c'est selon...
Le général de Gaulle a créé d'ailleurs la centrale nucléaire de Brennilis, qui a fermé en 85 à côté de l'enfer des monts d'arrêt dans le démantèlement.
500 millions de mis dans le démantellement jusqu'ici, et toujours pas démantelé.
Alors si vous voulez prolonger le débat, le film de Nicole Le Garrec et Félix Le Garrec, dont on a utilisé beaucoup d'extraits, est projeté à passer à côté de Rennes après-demain. Tout renseignement sur notre site avec la bibliographie de Jean-Charles Pedrazzi, son livre Reporter en Bretagne et la référence à la thèse excellente aux presses universitaires de Rennes de Gilles Simon.